Bonjour tout le monde. Nous allons donc parler aujourd'hui de francophonie. On a la chance d'avoir avec nous Nicolas Guinard, qui est directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique à l'Organisation internationale de la francophonie, que nous pourrons appeler OIF pour plus de commodité, si tu permets. C'est un sujet absolument passionnant. Je vais te présenter quand même en quelques mots d'abord, pour dire que tu es une sorte de, même si tu es jeune, un vieux routard des organisations internationales, puisque tu as passé 20 ans aux Nations Unies avant de rejoindre l'OIF, et qu'avant cela, tu as travaillé pour des ONG qui œuvraient dans l'humanitaire et les droits de l'homme, hein, si j'ai bien compris. Donc, avant d'évoquer de façon un peu plus complète l'OIF, qui est une organisation tentaculaire, tu nous en parleras, et très importante à divers égards, j'aimerais bien qu'on parle, que tu nous fasses un petit état des lieux, pas une thèse, hein, mais un petit état des lieux de ce que c'est que la francophonie. Aujourd'hui, la francophonie, c'est beaucoup de choses. C'est un poids dans l'enseignement, dans l'économie, les médias, la culture, etc. Mais c'est d'abord des gens qui partagent une langue, le français. Voilà. Alors, on en est où ? Il y a combien de gens, combien de personnes sur cette planète utilisent le français comme langue principale ou comme une de leurs langues principales ?
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer juste par une petite note d'humilité, parce que moi j'ai rejoint l'Organisation internationale de la francophonie il y a seulement 2 ans. Or, comme tu l'as dit, la francophonie c'est très vaste, c'est très complexe, et donc il y a des gens qui sont bien plus experts que moi. Ils ne sont pas à l'île-dieu l'été, c'est vrai. Mais la deuxième chose, c'est aussi pour dire que donc moi j'ai rejoint il y a 2 ans, provenant des Nations Unies. Et donc, effectivement, ayant un peu baroudé dans les instances multilatérales. Et en fait, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose à la francophonie, même en tant que Français. Et j'ai découvert, en fait, il y a 2 ans, un monde absolument passionnant, avec un potentiel énorme. Mais je me suis dit qu'en 6 mois, après 20 ans ou 25 ans dans les arcanes multilatérales, j'avais l'impression d'être totalement novice et de ne rien connaître à l'OIF et de découvrir des choses absolument incroyables. Les gens qui ne trempent absolument pas dans ce monde seront sans doute, ont encore moins de connaissances. Donc je suis très content d'avoir cette occasion. Je voulais juste commencer par là parce que j'ai l'impression moi-même de continuer à découvrir en permanence et de manière très enthousiasmante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de, au-delà de la francophonie institutionnelle, il y a énormément de dynamiques populaires qui sont fascinantes à voir, et donc c'est tout à fait porteur d'espoir. Voilà, je voulais juste commencer par là. Mais alors oui, quelques chiffres sur la francophonie. Donc c'est à l'heure actuelle environ 325 millions de locuteurs francophones à travers le monde, répartis sur les 5 continents. Et c'est appelé, alors les projections qui sont faites anticipent le doublement, puisque à l'horizon 2050. Donc un nombre de environ 750 millions. Alors évidemment, il y a des marges d'erreur qui peuvent être assez larges. Mais ça donne quand même une idée de ce que ça pourrait être à l'horizon 2050. Et ça, c'est les quelques chiffres que je vais vous donner. C'est l'Observatoire permanent de la langue française, qui est une de nos institutions basée au Québec, qui suit ça avec une équipe qui ne travaille que sur les statistiques liées à la langue française, à l'utilisation, au nombre d'élèves, système scolaire, etc. etc. Second chiffre, le nombre d'apprenants dans le monde à l'heure actuelle, c'est environ 144 millions de gens qui apprennent le français ou en français. Donc ça veut dire que c'est toujours une langue qui attire beaucoup, contrairement à ce qu'on peut entendre et ce que les médias peuvent parfois répercuter. La croissance envisagée à l'horizon 2050 que j'ai évoquée, elle est essentiellement due à la démographie sur le continent africain. Donc ça permet aussi de placer le curseur des éventuellement des priorités stratégiques qui pourraient être décidées, c'est que c'est vraiment l'Afrique, le continent africain, qui représente l'essor du nombre de locuteurs. C'est aussi la cinquième langue parlée dans le monde, actuellement, toujours. Donc les autres langues sont l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. C'est la quatrième langue utilisée sur Internet. Sinon, c'est l'anglais. Donc avant le français, c'est l'anglais, l'hindi, l'anglais, le chinois et l'arabe. C'est aussi 20% des échanges commerciaux dans le monde. Donc la francophonie, si on parle d'État, membre de la francophonie, a un poids économique qui n'est pas négligeable. C'est 32 pays qui ont le français comme langue officielle. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont le français soit comme langue de travail ou dont une partie de la population est francophone, utilise le français, mais pour lesquels le français n'a pas de statut. Il y a 32 États pour lesquels le français est langue officielle. Ce n'est pas négligeable non plus.
Donc combien de pays africains parmi ces 32 ? J'ai lu 22, ce qui me paraît très important.
Alors, il y en a sans doute 3 en moins depuis quelques mois. Ouais. Mais oui, ça doit être
une majorité en tout cas.
Oui, une majorité. Mmh. Oui. Majorité en Afrique. Voilà, quelques chiffres.
Oui, je voulais aussi te poser une question dans les chiffres que tu donnes. J'ai lu aussi, ça m'a paru très important, que c'était la deuxième langue la plus traduite. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a aussi la question de l'écrit et de la traduction, si ce que j'ai lu est exact. Et alors donc, l'OIF, c'est donc l'Organisation internationale qui regroupe 93... États et gouvernements, soit des pays qui ont 7 langues en partage, soit des pays qui adhèrent à l'Organisation internationale de la francophonie pour des raisons que tu nous expliqueras. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, de la naissance de cette organisation qui, sous ce vocable-là, existe depuis 2005, mais qui existait depuis bien avant?
Oui, tout à fait. Merci. Alors, la francophonie, effectivement. Alors, la première définition de la francophonie a été donnée par un géographe français, M. Onésime Reclus, à la fin du 19e siècle. Je le précise parce que je sais qu'il y a des écrivains célèbres dans l'auditoire qui ont fait des recherches dessus. Définition montrant que c'était l'espace, un espace où les pays et les populations avaient le français en partage. Mais la francophonie institutionnelle a commencé assez tard, en fait. Elle est assez récente. Elle a commencé en 1970. Avant ça, il y a eu beaucoup d'associations, de réseaux qui ont été créés. On peut citer la première d'entre elles, qui était l'Association des écrivains de langue française, l'ADELF, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été créée en 1926. Et qui est toujours très influente aujourd'hui. Mais la francophonie institutionnelle, en fait, est née en 1970 à Niamey, et pas du tout du fait de la France au départ, mais du fait de 4 chefs d'État anciennement colonisés par la France. Et donc c'est le président Bourguiba à l'époque, le président Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, le prince Norodom Sihanouk du Cambodge et le président du Niger de l'époque. Et donc ça montre vraiment d'abord la diversité de la francophonie. Et ils sont partis du constat que, bon, certes, ils étaient fraîchement décolonisés, mais il fallait pouvoir construire sur ce qu'ils avaient reçu en héritage, au moins, ce qui avait été reçu positivement. Et donc la langue française. Donc comment construire sur l'apport de la France, et donc c'est la langue. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de se regrouper, de regrouper les gouvernements. À l'époque, il y en avait une vingtaine. Ça s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique au départ. Donc c'était focalisé vraiment sur la coopération technique au départ. Et puis ça a évolué petit à petit, vers ce qui est aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Et tout ça accompagné en même temps de la création de beaucoup d'associations, de réseaux, encore une fois, provenant d'initiatives tout à fait populaires. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'est enrichi. Les institutions n'ont pas été créées uniquement du fait de décisions politiques, mais elles ont accompagné un mouvement très intéressant à travers toutes les communautés francophones, bien au-delà de la France, évidemment, et souvent qui naissaient en dehors de la France. Donc, à partir, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones a eu lieu en 1986 à Versailles. Et le premier secrétaire général de la francophonie, parce que voilà, il fallait une clé de voûte pour coordonner toutes les institutions et toutes les agences et tous les organismes qui se sont créés au fil des années. Donc, ils ont créé, les chefs d'État ont créé un poste de secrétaire général de la francophonie, dont le premier élu a été Monsieur Boutros Ghali, qui venait de terminer son mandat comme secrétaire général de la francophonie. Donc il a débuté en 1997. Donc c'est venu assez tard. On parle quand même d'institutions qui viennent assez tard dans le processus. Et l'Organisation internationale de la francophonie a été créée en fait même un peu plus tard, au début des années, enfin en 2005 exactement, en même temps que la première charte de la francophonie, qui est le document central. Mais un autre document, je me permets de compléter, très important, a été adopté en l'an 2000, s'appelle la Déclaration de Bamako, qui est assez peu connue. Moi, j'avoue qu'aux Nations Unies, en 20 ans, je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, c'est le premier document normatif pour les questions de démocratie et de respect des droits de l'homme. Et ça donne des obligations à tous les États-gouvernements qui adhèrent à l'Organisation internationale de la francophonie pour respecter certaines normes. Et la démocratie y est érigée en modèle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'impose pas de modèle de démocratie. Il est clairement stipulé que si la démocratie est le régime auquel tous les États membres doivent adhérer, ils peuvent choisir leur modèle, puisque chaque État a son histoire, ses coutumes, ses, voilà. Donc, ça laisse une grande souplesse qui peut être critiquée, hein, chacun a son point de vue, mais en tout cas, ça a permis de fédérer un certain nombre d'États autour de ces deux textes.
Avant de poursuivre, je voudrais vous dire que j'aimerais bien qu'on ménage au moins deux temps pour les questions, afin de ne pas tout renvoyer à la fin du débat comme on fait souvent. Donc dans un petit moment, si vous avez déjà des idées en tête, je vous donnerai la parole. Cette organisation internationale de la francophonie, qui est la seule organisation, si je ne m'abuse, internationale, qui repose sur le fait que des gens aient une langue en partage. Donc c'est vraiment une spécificité très très intéressante. Avant de te demander de nous décrire un petit peu l'architecture de cette grande machine de paix, je voudrais que... Est-ce qu'on a des pistes de réflexion sur le fait qu'elle soit si mal connue, en fait, hein? Puisque tu dis que toi-même, travaillant dans les organisations dans une grande organisation internationale, tu la connaissais mal.
C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait, quand on travaille aux Nations Unies, on regarde un peu les autres organisations de haut. Hein, il n'y a que l'ONU qui compte. Et quand on est français aux Nations Unies, souvent, on ne veut surtout pas avoir quoi que ce soit à faire avec la francophonie. Bon, c'est beaucoup plus classe de parler anglais comme en tant que français. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'organisations régionales qui sont mieux connues que l'OIF, parce qu'elles ont des instruments de gouvernance avec des décisions qui touchent les États au quotidien. Que ce soit l'Union européenne, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avec un passeport unique. Il y a des choses très concrètes, alors que la francophonie, au départ, étant au départ une agence de coopération culturelle et technique, ça restait quand même assez vague. Il n'y avait pas forcément d'impact. Hein. Je crois que les Français eux-mêmes connaissent très mal l'organisation. Ils n'ont pas besoin de se battre pour la défense de leur langue. Alors que dans d'autres pays, et là ça permet de parler de certains pays moteurs, comme le Québec, ou la Wallonie, alors ça c'est aussi une spécificité, c'est qu'il n'y a pas que des États, il y a aussi des États fédérés, ou des provinces, qui peuvent adhérer. Donc il y a un certain nombre, par exemple la Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est membre au même titre que la Belgique. Voilà. Bon, mais la Wallonie, le Québec, par exemple, sont des acteurs très très engagés. Mais pour eux, la langue française est effectivement une question existentielle pour eux. Ils assurent beaucoup plus, ils apportent beaucoup plus d'importance et donc de visibilité aussi sur un plan national. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que la place de l'OIF et notamment la place politique est en train de se développer, de s'accroître. Et je vais prendre juste deux exemples. Lors de chaque sommet des chefs d'État, donc il y a des sommets de chefs d'État tous les deux ans, à cette occasion, il y a une résolution sur les crises et les conflits touchant l'espace francophone qui est adoptée par les chefs d'État. C'est l'objet de plusieurs mois de négociations avant le sommet, et au moment du sommet, ils l'adoptent. Le dernier sommet, vous vous souvenez peut-être, a eu lieu en France, à Villers-Cotterêts, au mois d'octobre, donc il y a peu de temps. Et les négociations sur le projet de résolution sur la crise ont été, de manière assez surprenante, très très denses et très compliquées. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'États non membres, donc de l'extérieur de l'OIF, essayaient d'interférer dans les négociations. Donc,
tu peux
vais pas en citer, mais sur certaines crises qui touchent l'espace francophone, bon, on peut citer le conflit en Arménie, on peut citer l'Ukraine. L'Ukraine est un État observateur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pressions qui ont retardé d'ailleurs l'adoption du projet de résolution au matin même du sommet. Donc ce qui montre qu'il y a un intérêt, parce que si des États extérieurs prennent la peine de déployer beaucoup de pression, c'est qu'il y a un intérêt. Un autre exemple, aujourd'hui même, en ce moment à New York, il y a tous les 4 ans, une résolution qui est adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la coopération entre les Nations Unies et l'OIF. C'est généralement une résolution qui passe très inaperçu, sauf pour les États membres, parce que chacun essaye d'y glisser des petits éléments sur lesquels ils vont pouvoir construire après. Cette année, on a des difficultés dans les négociations du fait d'autres États extérieurs qui veulent bloquer du langage qui visiblement gêne. Donc c'est intéressant de voir, ça veut dire que, bon, c'est assez pénible pour l'OIF, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant sur la vie politique de l'organisation. Et ça, je pense que ça vient en écho aussi de l'attractivité qui peut sembler contradictoire, parce que dans les médias, on entend assez peu parler, mais l'attractivité de l'organisation pour des États qui ne sont pas naturellement francophones. Et ça, je peux peut-être dire un mot. Justement,
t'interrompre juste et après, effectivement, poursuivre là-dessus, c'est très intéressant. Mais quand tu dis bloquer du langage, c'est bloquer de la langue employée ou les mots employés, par exemple, démocratie, droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ?
Alors voilà, c'est bloquer des mots, c'est bloquer...
Des mots qui gênent.
Sans pointer du doigt qui que ce soit, c'est bloquer le mot changement climatique, bloquer les mots développement durable, voilà. Donc, ou droits de l'homme parfois.
Donc je te laisse poursuivre.
Et oui, donc en écho, il y a cette attractivité qui peut sembler nouvelle et surprenante, mais qui de fait existe. pour de nouveaux États. Alors, les nouvelles adhésions ont été bloquées à partir de 2018, l'arrivée de notre actuel secrétaire général, parce que les chefs d'État trouvaient qu'il y avait un peu trop d'entrée rapide au sein de l'organisation, et donc ils ont voulu qu'on mette en place un vrai processus d'adhésion, ce que notre secrétaire général actuel a mis en place. Donc entre 2018 et 2024, il n'y a pas eu d'adhésion, mais en 2024, on a eu 5 nouvelles adhésions, et dont le Chili et l'Angola, par exemple, qui auraient pensé, et alors pour des raisons totalement différentes. Alors il y a aussi le Land de la Sarre en Allemagne, ce qui est quand même intéressant. Il y a comme ça beaucoup de membres voilà, qui viennent du monde entier, vraiment avec une volonté très ferme d'être associés à la vie de la communauté francophone. Pondichéry, je cite juste comme ça, a envoyé des signaux, mais bon, pour l'instant, c'est évidemment, il faut toujours une décision de la capitale, une autorisation de la capitale, mais par exemple, Pondichéry a pu adhérer l'année dernière à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est notre bras parlementaire, sans problème, ce qui est intéressant. Donc Chili, Angola, Land de la Sarre, et à chaque fois des motivations très différentes. Elles peuvent être soit linguistiques, soit politiques, soit économiques. Bon, pour l'Angola, c'était assez clairement économique, c'est ce désir d'être complètement inséré dans le tissu économique régional de l'Afrique centrale, hein, puisqu'il y a essentiellement des États francophones, et tous leurs diplomates apprennent le français de manière remarquable, par exemple, mais ils ont aussi une population, une communauté de 4 millions de locuteurs francophones dans le pays, donc ça ne s'appuie pas non plus sur rien. Au Chili, pour le coup, c'était vraiment voilà, un désir de rejoindre une communauté de démocratie bienveillante. Et ça, c'est un mot, parce qu'évidemment, le Chili est très loin d'un point de vue économique. Non, il n'y a pas d'espace économique francophone dans la région. Donc, mais il y a vraiment ce désir de faire partie de cette communauté. Et l'OIF offre, en fait, cet espace de dialogue, de discussion et d'accompagnement, quand nécessaire, qui n'existe pas forcément facilement ailleurs. Et donc c'est intéressant de voir ça. Il y a de plus en plus de pays d'Amérique latine, d'ailleurs, qui montrent de l'intérêt. Voilà, donc ça montre un peu les dynamiques qui se mettent en place dans un contexte international que vous connaissez tous, qui est très troublé, très agité, et où toutes les alliances sont en train d'être définies. Voilà, pour certains, la francophonie représente un espace de concertation positive. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que toutes les décisions politiques au sein de l'UIF se prennent par consensus. Alors, ça demande beaucoup plus de travail parce qu'il faut passer de longues heures et de longues nuits à négocier sur tous les textes, les langages, hein, mais toutes les décisions se prennent par consensus. Donc ça donne quand même une force à l'organisation qui n'est pas mesurée. Mais pour revenir à la question sur peut-être le manque de visibilité, il y a quelque chose en matière de communication à faire, c'est sûr. Quand on publie des communiqués de presse, ils sont très très rarement repris par l'AFP.
Ils ne me regardent pas.
Alors parfois, il y a quand même des messages et des nouvelles d'importance. Mais c'est vrai que ça passe un peu en dehors des radars.
Je voudrais que tu nous précises, avant que je vous donne la parole pour le premier round de questions, je voudrais que tu nous précises juste une chose. Il y a 3 statuts, hein, de membres.
Oui.
C'est important parce que tu parlais des membres observateurs.
C'est vrai. Donc il y a le statut d'État membre de plein droit. Là, ils sont 56 et 53 à partir de dans 2 semaines, puisqu'il y a 3 États du Sahel central qui ont demandé leur retrait de l'organisation, qui sera donc effectif fin ou début septembre. Et ensuite, il y a un statut d'État membre associé, donc qui a un peu plus accès aux négociations, aux discussions, aux prises de décision, que ce soit sur les textes politiques ou sur la vie de l'organisation en elle-même. Et ensuite, il y a un statut d'État observateur.
Voilà. Là, il y a par exemple, l'Angola et le Chili sont observateurs.
Ils sont rentrés comme observateurs. Voilà. Et après, il faut franchir des étapes avec, donc, dans ce nouveau processus d'adhésion, des évaluations qui sont faites sur des critères linguistiques d'un côté et politiques de l'autre. Donc politique, c'est vis-à-vis du texte normatif qui est la déclaration de Bamako que je citais avant. Donc on a un certain nombre de critères. Et après, il y a un comité composé d'États membres qui prend les décisions. Et au final, ce sont les chefs d'État qui décident. Et peut-être juste là-dessus, en fait, dans notre système de gouvernance, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, évidemment, qui représentent, qui composent l'instance la plus haute. Mais ensuite, il y a une conférence ministérielle de la francophonie qui se réunit chaque année. Donc, généralement, le ministre des Affaires étrangères ou de la culture, ça dépend de chaque pays. Et un conseil permanent de la francophonie qui est composé, et c'est ça qui est intéressant comparé à d'autres organisations internationales, qui est composé de représentants personnels des chefs d'État ou de gouvernement. Qui sont souvent des ambassadeurs, mais pas forcément les ambassadeurs en poste dans la capitale. Ça peut être alors parfois on a un ambassadeur qui couvre à la fois l'UNESCO à Paris, ou l'OCDE et l'OIF. Mais parfois ce sont des représentants personnels, donc on les appelle les Sherpas, qui sont basés dans leur capitale et qui viennent pour toutes les réunions du Conseil permanent. Ça c'est l'instance presque quotidienne, avec des commissions, commissions politiques, commissions économiques, commissions, bon, il y a pas mal de commissions qui se réunissent avec tous les États membres. Donc le pouvoir appartient vraiment aux États membres. Le secrétariat, alors le secrétaire général évidemment est la clé de voûte du système, mais nous exécutons les décisions qui nous viennent d'en haut. Après, comme dans toutes les organisations internationales, il y a évidemment des échanges constants, donc on peut suggérer des choses.
Est-ce qu'il arrive que des États observateurs veuillent accéder à l'échelon associé et soient recalés, sans citer de nom, mais
oui, ça arrive. C'est arrivé.
Ouais. Ouais. Pour des raisons notamment, par exemple, de respect de la démocratie, des droits humains, etc., ou pour d'autres raisons.
Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, avec une raison officielle et plusieurs, évidemment.
Des vraies raisons.
Mais effectivement, il y a des critères qui sont appliqués et c'est arrivé. De même que pour passer du statut de membre associé à membre de plein droit, ça arrive aussi. C'est arrivé récemment. Voilà. Ça complique un peu la chose d'avoir ces différents statuts, mais c'est vrai que ça permet un peu de mesurer la volonté des États membres. En ce moment, on a des États observateurs qui sont très actifs et qui veulent faire beaucoup plus. Donc c'est intéressant, il y a une dynamique, c'est pas seulement les gens qui sont là pour écouter, ils veulent faire des choses et on travaille beaucoup avec eux. Là je prends un exemple juste pour Haïti par exemple. Donc Haïti c'est un de nos États membres historiques, évidemment, avec une vie culturelle absolument passionnante, des personnalités très actives. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, dans l'État est lui-même vraiment dans une situation de très grande fragilité. Mais pour venir en aide en Haïti, donc l'OIF se mobilise. Nous, on se mobilise beaucoup sur les crises qui sont un peu négligées dans les autres instances internationales et qui nous affectent directement. Haïti est typiquement un cas d'espèce, malheureusement, où le Conseil de sécurité est incapable pour l'instant de s'accorder sur des vrais recours. Et donc nous, on essaye de mobiliser, de continuer à ce qu'il y ait une certaine attention internationale sur la question. Et typiquement, on travaille avec les États observateurs qui sont de l'Amérique latine.
Qui
contribue à la force internationale de police qui est sur place, qui est menée par le Kenya. Et donc on a monté un programme de formation linguistique en français et en créole haïtien et en interculturalité, enfin sensibilisation culturelle, pour préparer tous ces contingents avant qu'ils soient déployés en Haïti. Ça, c'est quelque chose de très concret, par exemple, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire.
Oui, c'était une question que je voulais te poser. C'est concrètement, les États observateurs qui veulent faire plus, dans quel domaine veulent-ils faire plus? Mais ça répond bien à la question. Ah
Ah.
Est-ce que vous ne voulez pas de micro ?
Quels sont vos moyens ?
Comment se finance l'OIF et quels sont les moyens ?
Ah ben, voilà.
Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça c'est une question critique, évidemment. Les moyens viennent des États membres. Donc, il y a maintenant un système de calcul de contributions forfaitaires en fonction du statut, un peu calqué sur la formule des Nations Unies, en fonction de la population, du PIB par habitant, etc. Donc ça, c'est la ressource principale des contributions statutaires. Et ensuite, beaucoup aussi de contributions volontaires, donc qui sont ad hoc pour des projets précis, souvent pour des projets de coopération, ce qu'on appelle des projets phares, mais sans lesquels on a du mal à fonctionner. Alors, c'est une organisation vraiment qui coûte très peu d'argent. Et alors, c'est peut-être lié aussi à... les questions de visibilité sont peut-être aussi liées à ça, parce que c'est vraiment un budget qui est très très faible. En 2024, moins de 70 millions d'euros. Alors, ça peut paraître lourd dans l'absolu, mais... C'est à peine la moitié, pour donner une comparaison, à peine la moitié du budget du Bureau des Nations Unies, bureau politique, même pas une opération militaire, bureau politique qui couvre la Somalie. Voilà. Et avec ce budget-là, on doit assister 93 États membres, faire tourner une machine quand même de consultation, de concertation, avoir des représentations il y a 13 représentations dans des pays. Qui sont des représentations régionales. Bon, c'est un budget qui est franchement très faible. Et moi, venant des Nations Unies, c'est vrai que j'étais tout à fait estomaqué de voir ce que l'OIF arrivait à faire. Et alors, chaque sou est un sou. Je peux confirmer. Il y a une gestion qui est très saine et rigoureuse. Et on arrive à faire beaucoup de choses. Mais voilà, les ressources ne sont pas énormes. Il y a beaucoup d'États qui augmentent leur contribution. Alors, on a été sans doute une des seules organisations internationales l'année dernière à avoir son budget augmenté, budget programmatique augmenté de 25%, ce qui est quand même à signaler quand il y a des coupes partout. Et ça, c'est lié vraiment à la gestion qui est reconnue, gestion assainie et vraiment constructive de notre secrétaire général. Donc, les États membres ont exprimé leur satisfaction là-dessus. Mais bon, ça reste un volume assez peu important. Je précise, ça concerne juste l'OIF. L'OIF, c'est l'organisation qui regroupe les gouvernements, mais donc il y a toute une galaxie d'organisations, donc je peux dire un mot peut-être.
Oui, tout à fait. C'était la question suivante. Je voulais te demander de nous décrire un peu l'architecture de cette grande galaxie.
Voilà. Ah, pardon. Oui, oui.
Vous avez évoqué les trois États subsahéliens qui ont quitté l'OIF. Bon, on comprend très bien pour quelles raisons politiques. Ils forment maintenant tous les trois l'AES. Comment les a-t-on laissés sortir de l'OIF alors que ce sont trois États que j'ai bien connus où il y a culturellement vraiment une base de francophonie, où j'ai souvent rencontré des représentants de la francophonie dans ces États avec lesquels nous avons travaillé en tant qu'association francophone. Comment... les laisse-t-on partir de l'OIF alors qu'il y a encore dans ces populations, je dirais, une culture française, une éducation française ? Est-ce que le politique, finalement, mène le jeu ? C'est dommage.
Alors, on parle du Mali, du Burkina Faso...
Du Niger.
Et du Niger. Il y a d'éminents diplomates dans l'auditoire qui en connaîtraient beaucoup plus que moi sur le sujet, qui pourraient en dire plus, mais... Vu de l'OIF, évidemment, les États sont souverains et libres de leurs décisions. Donc, on respecte tout à fait les décisions qu'ils prennent. Là, il y a vraiment des conditions particulières. Nous, en tant qu'organisation, on considère que c'est un dommage collatéral des tensions qu'il y a entre certains États et la politique étrangère de la France dans certains domaines. Mais nous ne représentons pas que la France. Voilà. Et les États membres sont évidemment libres de quitter ou de rejoindre l'organisation comme ils l'entendent. Nous, on ne peut que le regretter, évidemment, d'autant que, comme je le disais, l'acte fondateur des institutions a été posé à Niamey, au Niger, que notre, notre déclaration politique normative, la première, c'est la déclaration de Bamako. Donc évidemment, c'est pas évident. Et c'est le premier cas de figure dans l'histoire de l'OIF. Mais on traite ça avec beaucoup de respect. La porte est toujours ouverte et on tient à maintenir des circuits de communication si jamais les politiques nationales changeaient à ce sujet. Et on reste assez souple sur le sujet. Et la décision a été prise par les chefs d'État récemment de juste continuer les programmes qui étaient en cours jusqu'à leur terme. Mais après de...
D'autant plus que les États souverains peuvent décider de quitter cette organisation, mais ça ne signifie pas que les populations concernées, elles, abandonnent l'intérêt voire l'amour pour la langue française.
Alors ça, c'est un point central, tout à fait. Et c'est bien ce qui... merci d'avoir souligné ça, parce que je crois que c'est au cœur vraiment de la francophonie. Là, on a parlé de la francophonie institutionnelle, mais effectivement, le fait que les populations de ces pays-là parlent le français, de facto, va permettre de perpétrer des liens. Et ça, les réseaux innombrables, les associations, que ce soit des jumelages ou des réseaux professionnels qui existent, francophones, maintiennent ce lien. On peut aussi parler du coup d'autres États qui sont francophones, comme l'Algérie par exemple, et qui ne sont pas membres de la francophonie, ce qui montre aussi les limites de la francophonie institutionnelle. La francophonie est plus large que la francophonie institutionnelle. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut voir. Mais ça permet aussi de voir d'autres horizons. Je crois qu'il y a d'autres questions, pardon.
Merci. Il se trouve que je préside une des 850 alliances françaises dans le monde. C'est un réseau exceptionnel, souvent de bénévoles. Et nous déplorons, nous nous sentons quand même pas mal abandonnés dans tous les contacts que je peux avoir avec les autres alliances, mes collègues. Et je voudrais savoir comment l'OIF peut contribuer au soutien de ces alliances françaises qui travaillent encore une fois avec des bouts de ficelle pour la diffusion de l'enseignement du français dans le monde. C'est le plus grand réseau d'enseignement du français, je pense, qui existe. Merci de me dire et de nous dire quelles contributions vous pouvez apporter.
Alors vous avez tout à fait raison, c'est un réseau exceptionnel qu'on voit à l'œuvre souvent quand on est à l'étranger, évidemment, mais dont on ne perçoit pas tous ces aspects-là. Moi, j'ai découvert en rejoignant la francophonie qu'effectivement, c'était une association, statut d'association, et que les alliances françaises travaillaient avec beaucoup de bénévoles. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration, j'avoue, pour ce que font toutes ces alliances. On est contraint par nos budgets, évidemment, mais dès qu'on peut, on essaye de s'appuyer sur les alliances françaises. Et là, je reviens à mon exemple de Haïti. Nous avons formé des contingents, alors du Kenya d'abord. Il y a un millier de soldats, de policiers kenyans qui ont été déployés. Et ensuite des contingents du Salvador, du Guatemala, de Belize, de la Barbade, de Antigua et Barbuda. Enfin bon, beaucoup d'îles aussi des Caraïbes. Et à cette occasion, et donc on s'est appuyé pour toutes ces formations sur les alliances françaises. Donc on a passé des contrats avec toutes les alliances françaises à qui on a délégué la formation. Donc c'est elles qui ont opéré. Donc ça a permis à certaines d'avoir accès à des budgets, des activités comme elles n'avaient pas eu depuis longtemps. Mais voilà, c'est assez ad hoc, j'avoue. Il y a une direction de la coopération linguistique chez nous qui s'occupe de ces questions-là. Et je sais que pour eux, c'est un casse-tête de ne pas avoir assez de budget pour avoir une coopération plus pérenne et moins ad hoc. Mais dès qu'on peut, on essaye de se... Alors, c'est à cette occasion que j'ai découvert qu'il y avait des alliances françaises, même à Saint-Kitts et Nevis, quand même des îles assez réduites. Enfin, il y a effectivement un réseau extraordinaire. Mais nous pourrons peut-être en parler après, si vous voulez.
Bonjour, j'ai une question, enfin deux questions en fait. Premièrement, on peut être membre de droit sans avoir la langue française comme langue officielle, puisque j'ai bien compris, il y a une cinquantaine de membres de droit et une trentaine, un peu plus d'une trentaine de pays qui ont le français comme langue officielle, donc j'aimerais comprendre la différence. Et puis une deuxième question, est-ce qu'il y a des organisations concurrentes basées sur la langue, je sais pas, pour l'hispanophonie, la sinophonie, l'indiphonie?
Alors, pour cette dernière question, évidemment, le Commonwealth est souvent cité comme le pendant anglo-saxon de l'OIF, mais c'est une organisation qui est très différente, qui pour le coup n'était pas basée sur la langue, mais sur le fait que tous les ressortissants des États membres étaient sujets de Sa Majesté au départ. Alors ça a un peu évolué, mais effectivement, l'angle de départ était politique, alors que l'OIF a eu un point de démarrage très, très différent. En revanche, il y a une organisation qui s'appelle CPLP, pour les pays lusophones, qui effectivement est née aussi un peu dans la même mouvance, dans la période de décolonisation, pour regrouper les États lusophones entre eux. On interagit souvent. Mais effectivement, ils sont que 9 États membres, donc c'est assez réduit. Les hispanophones n'ont pas l'équivalent. On sait qu'il y a d'autres. On a été approché, et certains de nos États membres nous ont dit avoir été approchés par d'autres espaces linguistiques à la recherche d'une formule équivalente sur lesquelles ils sont toujours en train de travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que on essaye de monter un peu des coalitions aux Nations Unies avec ces organisations-là, et notamment sur les questions linguistiques. Parce que se battre pour le français, l'existence du français, etc., dans les instances multilatérales, est parfois confronté à un peu de rejet. L'optique prise a été de joindre les forces avec les autres langues, les autres espaces linguistiques, et pour se battre ensemble sur le multilinguisme. Donc c'est une bataille qui a lieu actuellement vraiment contre le monolinguisme qui est clairement de fait aujourd'hui dans la plupart des instances multilatérales et aussi dans le monde numérique. Donc on monte des coalitions, par exemple à l'occasion des négociations sur le pacte numérique mondial qui a été adopté aux Nations Unies. On a regroupé tous les États francophones pour avoir une contribution harmonisée qui a été prise en compte avec beaucoup de pression, etc. Donc ça, c'est un des axes de notre travail, c'est de monter des coalitions avec des messages politiques harmonisés sur les grandes questions internationales. Le numérique en fait partie. On essaye de faire la même chose sur l'intelligence artificielle. C'est assez compliqué. Mais on a parfois des bonnes surprises. Donc sur le multilinguisme, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a des discussions en cours à New York avec cette approche-là. Sur la première question, membre de droit. Oui, c'est possible, c'est accepté. C'est une décision politique des chefs d'État en fonction de quel État est candidat. Certains considèrent que on peut prendre l'exemple tout récent du Ghana. Le Ghana était un État membre associé, et au sommet de Villers-Cotterêts, le Ghana a été admis comme membre de plein droit. Le Ghana a fait énormément d'efforts en interne, avec une politique linguistique en faveur du français très forte, et avait un chef d'État, donc qui a changé depuis, mais avait un chef d'État qui était très francophile et francophone, et donc avait vraiment tout fait pour que le Ghana, comme tous ses pays voisins, s'inscrive dans l'espace francophone. Donc oui, il y a des exemples.
Monsieur, vous aviez une question avant qu'on reprenne le cours.
Le Québec, qui est un peu particulier, une province importante dans un Canada complètement anglophone, pas complètement justement. Comment se situe le Canada? J'ai connu le Canada il y a 75 ans, donc c'est de l'histoire ancienne peut-être. Mais au Canada, les Canadiens français refusaient de parler. Certains Français, je dis français parce que là-bas, on disait français. Ouais. Vous êtes français de France, mais nous, on est français. Et certains se refusaient à parler anglais, ne savaient même pas parler anglais. Alors, ceci a certainement beaucoup évolué. Et je sais, comme vous l'avez évoqué, Haïti est peut-être un peu dans cet espace. Donc voilà, c'était ma question. Comment ça évolue et comment le Canada, le Québec, s'intéresse à l'organisation de la francophonie? Mmh. Quels sont les apports de Québec dans la francophonie?
Oui, ça c'est une excellente question. Le Québec est un de nos acteurs les plus actifs, les plus proactifs. Ils ont accueilli il y a 2 ou 3 mois la conférence ministérielle des ministres de la culture de la francophonie. Ils sont vraiment à l'initiative de beaucoup de projets, ils sont vraiment très, très volontaires. Alors, pour eux, c'est vraiment une question existentielle. Donc, ils sont très actifs. Et ils ont réussi, d'ailleurs, donc, vous citez le Québec. Le Canada, est comme État fédéral, est membre également. Mais il y a aussi d'autres provinces qui ont rejoint. Et donc, l'année dernière, au sommet, la province de la Nouvelle-Écosse a rejoint la francophonie. C'est historique, hein, mais il y a aussi la province de Nouveau-Brunswick qui avait rejoint. Enfin bon, il y a plusieurs et d'autres provinces qui veulent aussi adhérer. Donc le Québec a réussi à avoir un effet d'entraînement au Canada assez efficace pour la défense et la promotion de la langue française. Se bat aussi beaucoup sur une coopération économique. Ils poussent beaucoup, ça c'est quelque chose que l'organisation fait aussi. Ce sont des missions économiques et commerciales. Alors c'est 2 ou 1 par an où il y a un appel dans un état hôte, un appel de toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, qui veulent venir ensemble rencontrer des partenaires économiques locaux, nationaux, et essayer de nouer des relations. Ça a beaucoup de succès. La dernière était au Bénin cette année. Ça a eu beaucoup de succès avec des contrats assez conséquents qui ont été signés. Et ça permet vraiment aux acteurs économiques de tous ces pays qui parfois ont vraiment des liens très distendus de créer, de nouer des contacts et des partenariats très, très riches en ressortent. Donc le Québec pousse beaucoup aussi pour ça. Mais c'est effectivement un acteur très, très présent.
Tu parlais tout à l'heure des discussions âpres qui peuvent exister lors des sommets ou de certaines instances de la francophonie. Mais par exemple, est-ce que tu as un exemple en tête des points qui sont d'abord des points de divergence, des points qui suscitent des luttes particulières? Parce que l'institution, c'est quelque chose d'un peu écrasant. Parfois, on ne se représente pas exactement concrètement. Bien que toi, tu nous aies donné beaucoup d'exemples là. Hein, mais de quoi débattent les gens dans ces institutions?
Alors, ils se battent sur des mots, mais parce qu'il y a des messages assez forts qui peuvent en ressortir. On a parfois des États membres, hein, sans citer personne, mais des États membres qui sont en conflit l'un avec l'autre, et donc qui essayent de faire passer des positions officielles de l'organisation en leur faveur, par exemple, ou alors sont effectivement sujets à des crises régionales et veulent aussi que l'organisation se positionne en leur faveur dans la crise. Bon, donc on peut citer les grandes régions, hein, que ce soit les Grands Lacs, le Proche-Orient. Il y a beaucoup de cas où on demande à l'organisation de prendre position collectivement. Parfois, ça se passe bien, et parfois c'est plus compliqué en raison de divergences. Mais donc ça, c'est le positionnement de l'organisation, des États membres. Et nous, secrétariat, on développe des projets de coopération aussi sur les questions politiques pour aider nos États membres sur différents sujets.
Par exemple ?
Par exemple, alors une des choses les plus classiques qu'on fait maintenant, c'est l'accompagnement des processus électoraux. Et on aide à consolider les institutions qui organisent les élections. Donc on fournit une expertise technique, des experts électoraux, des experts constitutionnalistes. Et souvent, ça passe tout à fait sous les radars, mais c'est aussi une des conditions du succès. C'est qu'en fait, on n'expose pas nos États membres. Donc, on fournit une expertise technique, mais sans les montrer du doigt en disant ce qui arrive parfois dans d'autres instances internationales. C'est-à-dire qu'on est vraiment là en accompagnement et on essaye d'aider les États membres sans faire beaucoup de publicité, parce que c'est aussi une manière d'avoir un lien de confiance avec eux. Ils savent qu'on ne va pas... les montrer du doigt et mettre des jugements. Et c'est pour ça que moi, à ma grande surprise venant des Nations Unies, où parfois on pouvait mettre beaucoup de temps avant de créer un lien de confiance avec notre État hôte, à la francophonie, vraiment, ça c'est assez stupéfiant, mais il y a un lien de confiance qui est automatique, qui est là. Donc on a accès tout de suite aux décideurs et on a un impact qui est assez impressionnant. J'avoue qu'on fait des choses qu'on ne voit pas, mais qui ont un impact. On peut parler de certains pays comme le Gabon et la Guinée qui ont été en transition à la suite de coups d'État et que l'OIF a accompagné de manière assez discrète pour les permettre de revenir dans un système à la suite d'élections. Il a fallu reconstruire projet de constitution, des textes, les ministères, les organes techniques. Ça.
Ce sont des experts qui sont missionnés par l'OIF ou qui appartiennent à l'OIF
quand tu les dis deux. Les deux. On essaye de se détacher le plus possible. Donc on a des pools d'experts qu'on met à disposition et puis on travaille avec eux directement.
Ça signifie que l'OIF a un poids politique.
Oui. Oui.
En dépit d'un tout petit budget.
Non, il y a un poids politique réel et j'en viens à ce que je disais au début. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une attractivité d'autres États et aussi un souci des États qui sont à l'extérieur de voir ce que l'OIF peut produire. Par exemple, pour le Gabon, je vais citer le cas du Gabon. On a accompagné le Gabon pendant la transition alors que le Gabon avait été suspendu par l'Union africaine. On s'est montré en soutien. Ça a pu être critiqué politiquement. C'était une décision qui a été prise par les États membres de ne pas se séparer, parce que le Gabon aurait pu être suspendu, mais de ne pas se séparer d'un État, sachant qu'il avait montré toute la volonté de revenir dans un ordre constitutionnel et démocratique.
Ça ramène à ce que tu disais, c'est une belle expression, quand tu as parlé de la bienveillance en disant qu'un certain nombre de pays souhaitaient rejoindre cette organisation, étaient candidats pour rejoindre une association d'États bienveillante dans un contexte d'effritement du multilatéralisme qu'on connaît, de durcissement des relations internationales. D'une certaine manière, c'est presque une chance pour l'OIF. En tout cas, c'est certainement quelque chose dont les pays membres devraient s'emparer.
Oui, c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est précieux. Et je pense que l'intérêt accru même de nos États membres, on le voit dans les discussions qu'il y a, les sujets qu'ils mettent sur la table, etc. Il y a cette aspiration à pouvoir bénéficier d'une communauté où on peut se parler, où ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut. Voilà. Et là, je crois que c'est quelque chose dans le désordre international actuel est précieux qu'on se tienne à des textes et qu'il y ait un respect et cette règle du consensus qui n'est pas écrite mais qui est juste une pratique je crois vaut son pesant d'or dans ce contexte international.
Un pays peut-il être exclu ?
Oui, ça c'est prévu effectivement dans les textes. Il peut être suspendu, en tout cas des instances. Il y a plusieurs niveaux de suspension. Mais avant, il y avait des... c'était assez sec, si vous voulez. En cas de coup d'État militaire, un État était automatiquement suspendu jusqu'à ce qu'il organise des élections pour restaurer l'ordre. On a créé l'année dernière un mécanisme pour nuancer un peu cette approche et permettre justement de garder le dialogue avec ces États-là, qui, même s'ils sont suspendus, s'ils montrent le désir de revenir, qu'on puisse les accompagner. Donc c'est ce qu'on a fait dans plusieurs cas. C'est pour se montrer un peu plus ouvert et réaliste aussi parfois.
Saurez-vous résister à la pression de plus en plus forte de la Chine et de la Russie en Afrique? Or, c'est le gisement de la croissance du français dans les années suivantes, jusqu'en 2050. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste face au désordre? Et on voit bien avec les trois pays du Sahel que malgré la culture dont vous avez parlé, eh bien, ces pays nous abandonnent la francophonie.
Alors là, vous touchez à des décisions politiques critiques. Là encore, c'est avant tout des décisions qui concernent les États africains. Nous, francophonie, nous sommes juste au service des États membres. Donc après, on peut faire plus aussi si on donne plus de moyens. Et s'il y a plus d'intérêt, de volonté de travailler ensemble sur le continent africain. Bon, on le voit bien, toutes les grandes dynamiques à l'heure actuelle et la redéfinition des alliances et des communautés est dure. Voilà, que ce soit aussi de certains des alliés traditionnels que de la part des adversaires traditionnels, il n'y a pas vraiment de sentiment. Mais c'est aussi pour ça que l'OIF est attractif, parce que pour le coup, au sein de l'OIF, il y a beaucoup plus de chaleur, encore une fois, de bienveillance, il y a un respect. Voilà, donc après, les décisions politiques, il y a des intérêts qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais oui, c'est une des questions critiques en ce moment, vraiment, réellement. Mais pour ça, faut-il mettre des moyens là où il faut. Et il semble quand même, sans rentrer dans les intérêts particuliers de nos États, que la francophonie a peu de frais, entre guillemets, parce qu'elle est surtout active et vivante à l'initiative des populations, est un terreau de coopération naturelle et de partenariat naturel. Donc pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus là-dessus? Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi certains décideurs ne s'engagent pas plus là-dessus. C'est vraiment... Et en même temps, quand on fait des coupes budgétaires, on assimile la francophonie avec l'aide au développement, donc on rabote tout d'un coup, sans citer personne. C'est dramatique, parce que en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer avec une de nos agences, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Premier réseau au monde d'universités, réseau francophone. Plus de 1100 universités qui sont connectées ensemble, des échanges d'étudiants, de professeurs, des programmes de recherche, avec un petit budget aussi, par rapport à ce qu'ils ont répondu. 40 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Bon, certains ont décidé d'amputer les budgets de plus de la moitié. Vous perdez un réseau comme ça, vous ne le remontez pas. Vous avez derrière les acteurs que vous avez cités qui s'engouffrent immédiatement. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de prise de conscience sur ces sujets-là, parce que encore une fois, c'est à peu de frais, mais au moins ce qui existe, ne coupez pas.
Oui, quel regard avez-vous, que faites-vous concrètement sur la défense et la promotion de la langue française sur nos anciennes colonies ou protectorats? Bon, c'est une question assez proche de ce qui a été évoqué, mais votre point de vue en tant que professionnel du sujet?
Alors, je suis moins professionnel des aspects linguistiques. On a une direction, moi, c'est vraiment sur les aspects politiques. Mais je sais que notre direction qui s'occupe de ça, des grands programmes, il y a notamment un nouveau projet de mobilité des enseignants qui permet de concentrer sur un pays donné candidat l'envoi d'une centaine ou plus d'enseignants de français pour renforcer le système scolaire à un moment T. Il en faudrait beaucoup plus. Là, récemment, je crois que c'est le Rwanda, le Ghana et les Seychelles qui en ont bénéficié ces deux dernières années, je crois. Mais il en faudrait beaucoup plus. Encore une fois, c'est une question de moyens. Parce qu'effectivement, on parle de croissance du nombre de locuteurs francophones, mais il faut l'accompagner, parce que sinon, ces locuteurs-là, si les systèmes d'éducation n'arrivent pas à suivre, on ne va plus leur apprendre le français. Donc ça demande quand même d'accompagner. Ça ne va pas se faire tout seul. Et les États, en plus, on sait que les États où cette croissance démographique aura lieu ne sont pas forcément équipés pour accompagner ça dans des standards vraiment intéressants. Donc, ça demanderait beaucoup plus. Il y a des politiques de coopération linguistique qui sont en place, mais on pourrait faire plus, je pense.
L'exemple du Rwanda, je le sais parce qu'on en a parlé l'autre jour, hein, je ne suis pas du tout savante en la matière, mais l'exemple du Rwanda était vraiment intéressant parce que le Rwanda, c'est un pays qui s'est tourné vers l'anglais officiellement et où, dans lequel soudain, on a décidé d'injecter, entre guillemets, combien tu m'avais dit 100 enseignants du français.
Oui,
donc ça, c'est vraiment une opération ponctuelle, mais vraiment intéressante. Je sais, ils viennent pour combien de temps, d'ailleurs, ces enseignants ?
Alors, ils viennent au moins pour un an, mais certains restent. Ça, c'est intéressant. Mais effectivement, une centaine d'enseignants sur une population importante, ça permet d'avoir un réel impact. Mais je crois qu'à chaque fois, ça crée d'ailleurs des attentes, beaucoup, et plus de demandes, en fait. Mais on a aussi plusieurs instituts qui se sont lancés dans la formation à distance, formation en français, notamment à travers les outils numériques, qui font un travail fantastique et qui du coup touchent, avec une équipe de quelques personnes, touchent des millions d'étudiants et d'apprenants. C'est un centre qui s'appelle l'IFEF, qui est basé à Dakar, qui est extrêmement influent et très, très efficace. Encore une fois, avec peu de moyens, ils arrivent à toucher des millions d'apprenants.
Une question que je vous donne la parole après. Une question que je m'étais posée, c'est que dans tous ces pays francophones, on ne parle pas forcément exactement le même français. Donc, comment est-ce que certains cherchent à imposer des standards ? Qu'est-ce que la France fait le gardien du temple ? Comment ça se passe en fait ?
Alors encore une fois, je maîtrise moins, mais je ne crois pas que la France fasse le gardien. Au contraire, je crois que la Cité internationale des langues de Villers-Cotterêts, donc certains ont peut-être vu, montre la diversité de la manière dont on parle français, dont on écrit le français. Et je crois que la multitude des auteurs, dont certains étaient là cette semaine à l'Île-Dieu d'ailleurs, montre qu'il y a... Non, il y a un français très... Très riche, très diversifié, très coloré, très... Quand on va en Haïti, on n'entend pas le même français qu'au Québec. Mais c'est très riche et ça se nourrit mutuellement.
Merci. Oui, j'appartiens à une association de femmes qui s'appelle l'AFDU, l'Association française des femmes diplômées des universités, qui est elle-même liée à une association internationale, la GWA, Graduate Women Association, créée en 1920 aux États-Unis. Et au sein de cette association est en train de se monter en France un groupe francophone à l'initiative du Québec. Les Québécois sont vraiment très, 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 très demandeurs. Il est en train de se monter pour parler, bien sûr, de problèmes de femmes, de liberté, de problèmes d'éducation et de tous ces problèmes-là. Alors ma question est-ce que vous avez au sein de l'OIF un secteur, une section, quelqu'un qui soit chargé justement de ce problème de femmes ?
Tout à fait. Cette unité existe. Bon, en fait, c'est une des priorités fixées par notre secrétaire général, d'abord. Qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Louise Mushikiwabo, très respectée et influente en Afrique et bien au-delà. Donc elle ouvre aussi beaucoup de portes. Mais c'est une de ses priorités. Et donc nous avons une unité qui est très active, dont je pourrais vous mettre en contact après.
Alors, c'est peut-être une question vraiment enfantine et naïve, mais quand vous parliez au début des chiffres, des 100 millions de Français qui apprennent le français, enfin des 100 millions de personnes qui apprennent le français, comment vous faites pour calculer ça?
Oui.
Comment, parce que moi, si j'apprends le turc chez moi avec mon papa, vous n'allez pas deviner que j'apprends le turc tout seul
Si, on sait tout.
Très bonne question.
Et je connais ton prénom d'ailleurs, Aloïs, non? C'est ça très bonne question. Oui, donc il y a un observatoire qui est basé au Québec, encore une fois, qui ne fait que ça, qui est une équipe qui se consacre exclusivement à recenser tous les étudiants, tous les élèves en français. Alors évidemment, si on n'utilise pas des applications connectées à Internet, est-ce qu'on peut... Il y en a sûrement qui sont ratés. En tout cas, les 144 millions d'apprenants recensés, ceux-là, ils sont sûrs. Et tant mieux s'il y en a d'autres.
Oui, bonjour, merci bonjour. Pour l'échange. Vous avez évoqué le rôle linguistique, bien sûr, politique. Est-ce qu'au niveau économique, il y a un rôle? Est-ce que, par exemple, les entreprises françaises peuvent se servir de ce tremplin pour porter des marchés, etc. Ça, c'est très important aussi, bien sûr.
Oui, non, excellente question. Il y a effectivement un versant économique que notre secrétaire général et les États membres poussent pour... développer et approfondir. Donc je citais les missions économiques et commerciales un peu plus tôt qui sont organisées, mais il y a aussi beaucoup de... On encourage beaucoup les alliances. Alors il y a une alliance des patronats francophones qui s'est montée il y a quelques années. Il y a un forum des entrepreneurs francophones. Bon, il y a plusieurs structures qui essayent d'être actives. Il y a un immense potentiel. Et c'est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus.
Oui, parce que, si je peux me permettre, oui. Moi je travaille un peu à l'étranger, je trouve que toutes les associations germaniques, par exemple, avec des landers, vous en avez évoqué, oui. Sont très très soudées, s'entraident. Quand vous allez en Chine, par exemple, ce qui a été mon cas il y a 10 ans, vous êtes seul, vous voyez. En oui. France, vous êtes seul. Et alors que les Allemands se regroupent, les Anglais aussi... Les Portugais, les Espagnols, je trouve que c'est un gros problème et je pense que votre association pourrait jouer un rôle très important pour mettre en lumière des expertises, des gens, des réseaux, des distributions, etc.
Oui, c'est un des efforts, notamment depuis 2 ans.
Enfin, il y a la BPI aussi, pardon.
Mais c'est pas suffisant. Qui est purement française, je crois, la BPI. Voilà. Mais pour la francophonie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà... C'est un espace, en fait, qui est naturellement facile. Puisque il y a, bon, la langue en partage, mais il y a aussi souvent les traditions juridiques en partage, donc toutes les questions de brevets. Il y a effectivement un espace qui est naturellement propice à la coopération économique, mais qui n'est sans doute pas suffisamment exploité. Ça, c'est vrai. Mais je pense que les alliances franco-françaises ont souvent plus de moyens. Hein, je crois que les entreprises françaises se regroupent peut-être plus facilement. Ça manquait sur un plan francophone et c'est ce qui est en train de voilà ce qu'on essaye de développer.
Alors très court, effectivement tous les pays du monde ont en partage les problèmes de santé hein, avec les épidémies qu'on connaît et celles qui vont venir. Il y a une question, c'est que les documents produits par exemple par l'OMS ou en particulier par l'OMS ne sont pratiquement jamais traduits en français avant 1 an, 2 ans, c'est-à-dire qu'ils sont presque périmés. Mmh. Et je trouve qu'il y a des traducteurs bénévoles qui peuvent faire des traductions, mais ces traductions pourraient tout à fait avoir le logo de l'OIF, par exemple, pour être diffusées beaucoup plus rapidement.
Oui, il y a sûrement des axes de travail là-dessus. Nous, notre politique... Et de ne pas, alors sauf cas exceptionnel, mais de ne pas faire des traductions à la place des organisations internationales. L'OMS est composée notamment d'États francophones et donc doit assumer ce respect du multilinguisme en fonction de ces textes. Donc, parce que si l'OIF commence à faire le travail qui est prévu dans les textes et les statuts des organisations internationales, on ne fera plus que ça. Donc l'idée, c'est au contraire de pousser sur un plan politique, et c'est ce qui est fait en ce moment à New York, pour que le monolinguisme ne soit plus un état de fait, et que donc les que les organisations ASAL prennent les mesures pour que tous les textes soient dans les langues de travail prévues. Voilà. Après, bon, il y a des cas exceptionnels où il y a un gros travail qui est fait effectivement sur l'intelligence artificielle et les traductions, mais on essaye de faire attention à ne pas prendre la place d'autres avec le peu de moyens que nous avons en plus.
Oui, vous avez évoqué les mots de développement durable et de changement climatique qui pouvaient être des mots qui pouvaient bloquer certaines discussions. Est-ce que ce sont des enjeux au sein de l'OIF? Est-ce que les États en débattent? Et puis pour revenir sur des échanges qui ont lieu ici sous ces chaînes la semaine dernière, est-ce que les enjeux énergétiques ou les questions énergétiques sont des sujets dont on débat au sein de l'OIF?
Alors oui, ce sont
notamment en Afrique.
Non, ce sont des débats et d'ailleurs on essaye d'aider nos États membres qui sont victimes du changement climatique. Hein. On a aidé à monter une coalition des États du bassin du fleuve Congo. On a lancé plusieurs projets pour aider à s'organiser. On forme aussi des négociateurs et d'ailleurs notamment des négociatrices de nos États francophones en amont des conventions climat, des négociations des conventions climat, pour que la voix francophone soit portée. Parce que souvent, c'est le problème. Toutes les discussions se tiennent en anglais, les textes sont en anglais. Voilà. Donc on travaille aussi sur ces aspects-là pour toutes les conventions climat, la convention des océans. Enfin, on a un institut, c'est un de nos trois instituts, l'Institut français du développement durable, qui est basé encore une fois à Québec et qui est très actif sur ces thèmes-là. Les points de blocage dont je parlais à New York viennent d'autres États, donc d'États non membres de l'OIF.
Merci d'être venu. Merci. Merci Nicolas, merci beaucoup, c'était passionnant.